Chapitre 33. C'est gentil ici, dit Pauline en regardant autour d'elle. Albert aurait voulu répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se contenta d'écarter les mains, dansant d'un pied sur l'autre. Depuis qu'ils se connaissaient, ils s'étaient toujours rencontrés à l'extérieur. Elle habitait l'hôtel Péricourt, chez ses patrons, une chambre sous les toits, et l'agence de placement avait été claire. « Toute visite est strictement interdite, mademoiselle. » L'expression consacrée pour préciser aux domestiques que s'ils avaient envie de baiser, ils devaient le faire ailleurs, pas de ça chez nous, hein, c'est une maison correcte, etc. De son côté, Albert ne pouvait pas amener Pauline chez lui. Édouard n'en sortait jamais, d'ailleurs. Où serait-il allé? Et puis, à la rigueur, même s'il avait accepté de lui laisser un soir l'appartement, Albert avait menti à Pauline dès le début. Comment faire maintenant? « J'habite une pension de famille, » avait-il prétendu, « tenue par une propriétaire revêche, suspicieuse, pas de visite, interdit, hein, comme chez toi. Mais je vais changer, hein, je cherche autre chose. » Pauline n'était ni choquée, ni impatiente. Plutôt rassurée même. Elle disait que, de toutes les manières, elle n'était pas une fille comme ça, comprendre « je couche pas ». Elle voulait une relation sérieuse, comprendre le mariage. Albert ne savait pas démêler le vrai du faux dans tout cela. Donc, elle ne voulait pas, d'accord. Sauf que, maintenant, chaque fois qu'il la raccompagnait à l'instant de se séparer, c'était des embrassades à bouche éperdue, blottis contre les portes cochères. Ils se frottaient l'un à l'autre comme des fous, debout, les jambes entremêlées. Pauline retenait la main d'Albert de plus en plus tard, et même, l'autre soir, elle s'était arc-boutée, avait poussé un long cri rauque et lui avait mordu l'épaule. Il était monté dans le taxi comme un homme chargé d'explosifs. Ils en étaient là lorsque, vers le 22 juin, l'affaire du souvenir patriotique prit enfin son envol. Soudainement, l'argent se mit à tomber à flots. Leur pactole quadrupla en une semaine. Plus de 300 000 francs. 5 jours plus tard, ils avaient en caisse 570 000 francs. Le 30 juin, 627 000, ça n'arrêtait pas. Ils avaient enregistré les commandes de plus de 100 croix, 120 torches, 182 bustes de poilus, 111 monuments composites. Jules d'Épremont avait même remporté l'appel d'offres pour le monument destiné à son arrondissement de naissance. 100 000 francs avaient été versés en acompte par la mairie. Et il arrivait d'autres commandes tous les jours accompagnées de nouveaux règlements. Édouard passait ses matinées entières à rédiger les récépissés. Cette manne inattendue leur fit un curieux effet, comme s'ils se rendaient compte seulement maintenant de la portée de leurs actes. Ils étaient très riches, et l'hypothèse du million de francs qu'Édouard avait fixé ne relevait plus du tout du fantasme parce qu'on était encore loin de la date limite du 14 juillet et que le compte en banque du souvenir patriotique ne cessait de gonfler. Tous les jours, 10, 50, 80 000 francs, c'était à ne pas croire. Et même, un matin, 117 000 d'un seul coup. Édouard, d'abord, hurla de bonheur. Lorsqu'Albert était rentré le premier soir avec une mallette remplie de billets, il les avait jetés en l'air à pleine main comme une pluie bienfaisante. Il avait aussitôt demandé s'il pouvait prendre un peu sur sa part là, tout de suite. Albert, en riant de joie, lui avait dit que bien sûr, ça posait pas problème. Le lendemain, Édouard s'était fabriqué un masque magnifique entièrement fait de billets de 200 francs collés en spirale. L'effet était superbe. Comme des volutes de pognon, comme si les coupures se consumaient et enveloppaient son visage d'un halo de fumée. Albert avait été séduit, mais aussi choqué. Hein, on ne fait pas ça avec de l'argent. Hein. Il arnaquait des centaines de personnes, mais il n'avait pas abdiqué toute morale. Édouard, lui, trépignait de joie. Il ne comptait jamais l'argent, mais conservait précieusement les lettres de commande comme des trophées, et les relisait le soir en sirotant un alcool blanc avec sa pipette en caoutchouc. Ce dossier, c'était son livre d'heures. Albert, passé l'émerveillement de s'enrichir à cette vitesse, prit conscience de la dimension du risque. Plus l'argent affluait, plus il sentait la corde se resserrer autour de son cou. Dès qu'il y eut 300 000 francs en caisse, il n'eut plus qu'une chose en tête, s'enfuir. Édouard s'y opposa, Sa règle du million n'était pas négociable. Et puis, il y avait Pauline. Que faire ? Albert, amoureux, la désirait avec une violence décuplée par l'abstinence à laquelle la jeune fille le contraignait. Il n'était pas prêt à renoncer. Sauf qu'il avait commencé avec cette jeune fille sur une mauvaise base. Un mensonge en avait entraîné un autre. Pouvait-il lui dire maintenant, sans risque de la perdre, « Pauline, je suis comptable dans une banque dont le seul but de taper dans la caisse, parce qu'avec un camarade, une gueule cassée irregardable et passablement dingue, nous sommes en train d'arnaquer la moitié de la France de manière totalement immorale, et si tout va bien, dans 15 jours, le 14 juillet, on fout le camp à l'autre bout de la planète, est-ce que tu veux venir avec moi ?» L'aimait-il ? Il en était fou. Mais impossible de savoir ce qui en lui prenait le dessus, du violent désir qu'il ressentait pour elle ou de la peur panique d'être arrêté, jugé, condamné. Il n'avait plus rêvé de peloton d'exécution depuis les jours de 1918 qui avaient suivi son entretien avec le général Morieux sous l'œil intraitable du capitaine Pradel. Ses rêves revenaient désormais presque toutes les nuits. Quand il n'était pas en train de jouir de Pauline, il était fusillé par une section composée de 12 exemplaires identiques du capitaine Pradel. Qu'il jouisse ou qu'il meure, l'effet était le même, réveillé en sursaut, en nage, épuisé et hurlant. Il cherchait à tâtons sa tête de cheval, seul à même de calmer ses angoisses. Ce qui avait été une joie immense, due à la réussite de leur entreprise, se transforma bientôt chez les deux hommes, et pour des raisons différentes, en un calme étrange, celui qu'on ressent lorsqu'on achève une tâche importante, qui a réclamé beaucoup de temps et qui, avec le recul, ne semble au fond pas si essentielle qu'on l'avait espéré. Pauline ou pas, Albert ne parlait que de départ. Maintenant que l'argent arrivait en vagues serrées, Édouard ne disposait guère d'arguments pour s'y opposer. À contre-cœur, il céda. On convint que la promotion commerciale du souvenir patriotique s'achevant le 14 juillet, on décamperait le 15. « Pourquoi attendre le lendemain ?» demanda Albert, affolé. « D'accord, » écrivit Édouard, « le 14. » Albert se précipita sur les catalogues des compagnies maritimes. Il suivit du doigt la ligne qui partait de Paris, un train de nuit qui arrivait à Marseille aux premières heures du jour, puis le trajet du premier paquebot en partance pour Tripoli. Il se félicita d'avoir conservé le livret militaire de ce pauvre Louis Évrard, volé à l'administration quelques jours après l'armistice. Dès le lendemain, il acheta les billets, deux billets, le premier pour M. Eugène Larivière, le second pour M. et Mme Louis Évrard. Il n'avait pas la moindre idée de la manière de s'y prendre avec Pauline. Pouvait-on, en 15 jours, décider une fille à tout quitter et à s'enfuir avec vous à 3000 kilomètres? Il en doutait de plus en plus. Ce mois de juin était vraiment fait pour les amoureux, une douceur de paradis, et quand Pauline n'était pas de service, des soirées interminables, des heures entières à se caresser, à parler, assis sur des bancs de jardin public. Pauline se laissait aller à ses rêves de jeune fille, décrivait l'appartement qu'elle désirait, les enfants qu'elle désirait, le mari qu'elle désirait, dont le portrait, en ressemblant de plus en plus à Albert tel qu'elle le connaissait, s'éloignait de plus en plus de l'Albert réel, qui n'était au fond qu'un petit escroc en passe de filer à l'étranger. En attendant, il y avait de l'argent. Albert se mit en quête d'une pension de famille où il pourrait recevoir Pauline, si elle acceptait d'y venir. Il excluait l'hôtel que, dans la circonstance, il estimait de mauvais goût. Deux jours plus tard, il trouva une pension proprette, quartier Saint-Lazare, tenue par deux sœurs, des veuves très arrangeantes qui louaient deux appartements à des fonctionnaires très sérieux, mais réservaient toujours la petite chambre du premier aux couples illégitimes qu'elles recevaient avec des sourires complices, de jour comme de nuit, parce qu'elles avaient percé deux trous dans la cloison à la hauteur du lit, chacune avait le sien. Pauline avait hésité. Toujours le couplet « Je ne suis pas une fille comme ça », après quoi elle avait dit d'accord. Ils étaient montés dans un taxi. Albert avait ouvert la porte sur le logement meublé, tout à fait le genre dont rêvait Pauline. Des rideaux lourds qui faisaient riche, du papier peint au mur, Un petit guéridon et un fauteuil crapaud permettaient même à la pièce de n'avoir pas trop l'air d'une chambre à coucher. « C'est gentil, » dit-elle. « Ouais, c'est pas mal, » hasarda Albert. Était-il définitivement idiot? En tout cas, il ne vit rien venir. Comptez 3 minutes le temps d'entrer, de regarder, de retirer son manteau, ajoutez 1 minute pour les bottines à cause des lacets, et vous avez une Pauline toute nue, debout au milieu de la pièce, souriante et offerte, confiante, des seins d'une blancheur à pleurer, des hanches délicieusement courbes, un delta parfaitement domestiqué. Tout ça pour dire que la petite n'en était pas à son coup d'essai, et qu'après avoir expliqué pendant des semaines tout ce qu'elle n'était pas, ayant sacrifié aux usages, elle avait vraiment hâte de voir les choses de plus près. Albert était complètement dépassé. Ajoutez 4 minutes, et vous avez un Albert hurlant de plaisir. Pauline releva la tête, interrogative et inquiète, mais bientôt referma les yeux, tranquillisée, parce que Albert possédait de la réserve. Il n'avait pas vécu une scène pareille depuis la veille de sa mobilisation avec Cécile, quelques siècles plus tôt. Il avait tant de retard qu'il fallut que Pauline dise « Enfin, il est 2 heures du matin, mon cœur, on pourrait peut-être dormir un peu, non ?» Ils se levèrent l'un contre l'autre en petite cuillère. Pauline dormait déjà quand Albert se mit à pleurer, tout doucement, pour ne pas la réveiller. Il rentrait déjà tard le soir après avoir quitté sa Pauline. À partir du jour où elle se coucha sur lui dans le petit meublé, Édouard le vit encore moins. Avant d'aller la retrouver, les soirs où elle n'était pas de service, Albert passait à l'appartement avec sa mallette de billets. Les dizaines, les centaines de milliers de francs s'entassaient dans une valise glissée sous le lit qu'il n'occupait plus. Il vérifiait qu'Édouard avait son manger et, avant de ressortir, embrassait Louise qui, toujours penchée sur le masque du lendemain, lui répondait distraitement, avec quelque chose de rancunier dans l'œil, comme un reproche de les abandonner. Un soir, nous étions le 2 juillet, un vendredi, lorsque Albert rentra, portant sa mallette qui contenait 73 000 francs, il trouva l'appartement vide. Avec la multitude de masques de toutes formes et de toutes couleurs accrochés au mur, la grande pièce inoccupée ressemblait à la réserve d'un musée. Un caribou, tout en minuscules écailles de bois et pourvu de cornes démesurées, le regardait fixement. Partout où se tournait Albert, vers cet Indien chamarré aux babines de serpent en perles et strass, ou vers cet être étrange torturé par la honte, au nez démesuré comme celui d'un menteur pris sur le vif à vous donner envie de l'absoudre de tous ses péchés, ces personnages l'observait avec charité, planté sur le pas de la porte avec sa sacoche. On imagine sa panique. Depuis leur emménagement, Édouard n'était jamais sorti. Louise n'était pas là non plus. Pas un mot sur la table, rien non plus, indiquant un départ précipité. Albert plongea sous le lit. La valise s'y trouvait toujours, et s'il manquait de l'argent, ce n'était pas visible. Il y avait tellement de billets, vous preniez 50 000 francs, ça ne se voyait même pas. Il était 19 heures. Albert replaça la mallette et se précipita chez Madame Belmont. Il a demandé à emmener la petite pour le week-end, j'ai dit oui. C'était exprimé comme à l'accoutumée, sans intonation, de l'air informatif et distant d'une brève dans le journal. Cette femme était totalement désincarnée. Albert s'inquiéta parce qu'Édouard était capable de tout. Quand vous l'imaginiez en liberté dans la ville, vous ne pouviez vous empêcher de vous affoler. 1000 fois, Albert lui avait expliqué combien leur situation était périlleuse, qu'ils devraient partir aussitôt que possible et que s'il fallait attendre, Édouard y tenait à son million, hein, pas question de partir avant, il devait tout surveiller et surtout ne pas se faire remarquer. « Quand ils vont comprendre ce qu'on a fait, avait-il expliqué, l'enquête ne sera pas bien longue, tu sais. Il y a mes traces à la banque, on m'a vu tous les jours à la poste du Louvre. Le facteur apporte ici des tombereaux de courriers. Nous sommes passés par un imprimeur qui va nous dénoncer dès qu'il comprendra à quoi nous l'avons mêlé, malgré lui. Nous trouver pour la police, ce sera l'affaire de quelques jours, quelques heures peut-être même. » Édouard était d'accord. Quelques jours, d'accord. Faire attention. Et voilà qu'à 2 semaines de leur fuite, il quittait la maison pour se promener avec une gamine dans Paris ou ailleurs, comme si cette gueule cassée en comparaison de toutes celles qu'on voyait ici et là, n'était pas plus hideuse et repérable. Où avait-il bien pu aller ?